Chapitre 4. Cathy se maquillait quand elle entendit sonner. Elle prit la cigarette qui se consumait dans le cendrier, puis enfonça une touche.
Qui est là ?
Moi.
Que viens-tu faire ici en pleine journée ?
J'ai des nouvelles importantes à te communiquer, dit le capitaine Bauer.
Fais-moi entrer.
Cathy inhala la fumée, puis écrasa le mégot. Elle se leva et se regarda dans le miroir. Elle donnait du bouffant à sa chevelure lorsqu'il frappa.
« J'espère que tu ne me déranges pas pour rien, Franz, »
dit-elle en ouvrant la porte.
« Tu sais que je dois prendre des sanctions contre deux filles, et j'ai horreur d'arriver en retard à ces conseils disciplinaires. »
Il sourit. Elles ont gardé un peu d'argent pour elles. Bon Dieu, n'aimerais pas t'avoir pour patronne. Elle le fixa avec impatience.
Alors, qu'est-ce que tu n'as pas osé m'annoncer par téléphone ?
Franz fit le tour du séjour. La pièce était décorée avec goût, d'un canapé et d'une causeuse, de deux chaises assorties et de divers objets d'art.
Il n'y a pas de micro, j'espère. C'est à toi de me le dire, monsieur le capitaine de la police,
fit-elle avant de lorgner sa montre.
Je viens d'apprendre que ton père est de retour au Nouvel-Éden.
Quoi ?
C'est impossible.
Sidérée, elle s'assit et se pencha pour prendre une autre cigarette sur la table basse.
Un de mes lieutenants est ami avec un de ses gardes. Cet homme lui a dit que ton père et un octopode sont prisonniers dans le sous-sol d'une villa proche de Vegas.
Cathy traversa la pièce pour décrocher le téléphone.
Darla, annonce à Lorraine et à Atsuko que je les verrai demain à 14h.
Oh, c'est exact. J'avais oublié.
Merde.
Entendu. Disons à 11h. Ou plutôt 11h30. Je ne tiens pas à me lever aux aurores.
Elle regagna le canapé et prit sa cigarette. Elle inhala à plein poumon et souffla des ronds de fumée.
Dis-moi tout ce que tu sais.
Franz l'informa que, selon ses sources, son père, sa sœur Ali, sa nièce et un octopode s'étaient présentés 2 mois plus tôt au campement établi par les humains sur la rive sud de la mer cylindrique. Les Wakefield avaient déclaré qu'ils venaient parlementer pour tenter d'éviter un conflit et ont raconté même que la délégation avait plaisanté avec les soldats.
Nakamura a ordonné que rien de tout cela ne soit divulgué et les a fait emprisonner.
Cathy allait et venait dans la pièce.
Non seulement mon père est vivant, mais il se trouve ici,
dit-elle avec enthousiasme.
T'ai-je précisé que c'était un type formidable ?
Une bonne douzaine de fois,
répondit-il en riant.
Il a toujours été si gentil avec moi.
Elle s'arrêta et tira sur sa cigarette. Ses yeux brillaient quand elle souffla la fumée.
Il faut absolument que je le rencontre, Franz.
C'est impossible, Cathy. Nul n'est censé savoir qu'il est au Nouvel-Éden.
Je serais viré, ou pire, si on apprenait que je t'ai fait des confidences. Je t'en supplie,
dit-elle en le prenant par les épaules.
Tu sais que j'ai horreur de demander des faveurs, mais c'est très important.
Tu ne comprends pas ?
Il y a un garde en permanence. Le sous-sol est truffé de micros et de caméras. C'est irréalisable. Il existe toujours un moyen,
fit-elle en glissant la main sous sa chemise.
Tu m'aimes, pas vrai ?
Elle l'embrassa avec passion, puis s'écarta, sans interrompre pour autant ses caresses.
Tu le sais, Cathy, mais je ne suis pas fou.
Elle disparut dans sa chambre, puis revint moins d'une minute plus tard avec 2 liasses de billets.
Je vais voir mon père,
fit-elle en lançant l'argent sur la table basse.
Et tu vas m'aider. Tu pourrais soudoyer n'importe qui avec ça.
Franz fut impressionné. La somme était considérable.
Et que feras-tu pour moi en échange ?
Demanda-t-il sur un ton moqueur.
Capitaine Bauer, vous n'avez qu'à vous déshabiller et vous allonger sur ce lit pour le savoir.
Elle alla dans la penderie de sa chambre et referma la porte, puis prit une clé et ouvrit un coffret
en sortant une seringue préparée plus tôt dans la journée. Elle remonta sa robe et noua un garrot autour de sa cuisse, chercha un vaisseau sanguin dans une masse d'hématomes, puis planta l'aiguille. Après avoir injecté tout le liquide, elle attendit d'en ressentir les effets. Cathy planait. Ce fut en fredonnant qu'elle jeta la seringue et remit la lanière de caoutchouc dans la boîte. Elle retira ses vêtements et prit le temps d'admirer son corps dans le miroir, puis elle ouvrit un tiroir de la coiffeuse et en retira un bandeau. Elle entra dans la chambre et Franz regarda sa silhouette avec admiration.
« Rince-toi l'œil, » lui dit-elle. « C'est tout ce que tu verras de l'après-midi. »
Elle se coucha sur lui et l'embrassa, tout en nouant le bout de tissu sur ses yeux.
« Quelle est la suite du programme ?»
demanda-t-il lorsqu'elle s'écarta de lui.
« Sois patient, »
fit-elle en allant fouiller dans un grand tiroir de la commode. Il contenait un vaste assortiment d'accessoires érotiques, gadgets électroniques divers, onguents, cordes et autres liens, masques et godemichets. Elle prit un flacon et un petit bocal. En riant, elle retourna auprès de Franz. Elle s'allongea sur lui et l'embrassa, avant de se tourner et de s'asseoir à califourchon sur son torse. Elle versa un peu de lotion dans ses paumes, écarta les jambes de son amant et en oignit ses parties génitales.
Murmura Franz. C'est super.
Elle les saupoudra de poudre blanche puis l'enfourcha, se balança lentement pendant quelques minutes et se figea lorsqu'il fut sur le point d'atteindre l'orgasme. Elle reprit ses mouvements pour s'immobiliser presque aussitôt.
Continue,
cria Franz.
Répète après moi. Je prends l'engagement. Tout ce que tu voudras, mais n'arrête pas. Que Cathy Wakefield verra son père au cours des prochains jours. »
Il répéta ses paroles et elle lui accorda sa récompense. Ali exécrait ses interrogateurs, deux individus privés d'humour qui la traitaient avec dédain.
« Vous n'obtiendrez rien de moi si vous vous obstinez à me poser toujours les mêmes questions, »
dit-elle exaspérée.
« Je croyais que vous vouliez des informations sur les octopodes, mais seuls mes parents semblent vous intéresser. »
« Ce sont des renégats, Madame Turner.
Je vous ai dit 20 fois que je ne sais pas comment ou même pourquoi ils ont quitté le Nouvel Éden. J'ignore si les extraterrestres les ont ou non aidés. Et si vous ne changez pas de sujet,
vous ne semblez pas avoir conscience de la gravité des accusations qui pèsent sur vous, »
dit l'autre homme.
« Que me reproche-t-on ? J'aimerais bien le savoir. »
« Haute trahison et collusion avec l'ennemi. »
Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule.
Niez-vous avoir fourni aux octopodes des informations sur le Nouvel Éden?
Je le reconnais bien volontiers.
Les deux hommes prirent des notes.
Comment des enfants rieurs peuvent-ils changer ainsi en grandissant?
Se demanda-t-elle brusquement.
Est-ce dû à l'environnement ou à l'hérédité?
Écoutez, répondit-elle. Lorsqu'ils eurent posé la question suivante,
j'aimerais faire une pause pour remettre un peu d'ordre dans mes pensées.
Ils acceptèrent. Elle alla retrouver sa fille que gardait une employée du gouvernement.
Vous pouvez nous laisser, Madame Adams?
Nikki constata que sa mère était inquiète.
Ils sont méchants avec toi, maman?
Ali finit par sourire.
Je ne pourrais pas te dire le contraire, Nikki.
Richard fit un dernier tour du sous-sol et se dirigea vers le lavabo. Archie était roulé en boule dans un angle.
Bonjour, lui dit Richard en s'essuyant le front. C'est l'heure du petit déjeuner.
N'ai pas faim,
répondit en couleur l'octopode.
Vous devez manger quelque chose. Je reconnais que le chef n'est pas un cordon bleu, mais... vous ne pouvez pas vous contenter de boire un peu d'eau.
Archie ne bougea pas. Il restait plongé dans un mutisme profond depuis qu'il avait terminé sa réserve d'inhibiteur et Richard s'inquiétait pour sa santé.
Il versa des céréales et de l'eau dans un bol qu'il apporta à son ami.
« Tenez, essayez d'avaler ça. »
Archie leva deux tentacules et prit le récipient. Lorsqu'il déglutit la première bouchée, une onde orangée se répandit sur ses autres appendices.
« Qu'est-ce qui vous arrive ?»«
J'extériorise mes émotions. »
Cette réponse fut accompagnée par une palette de couleurs irrégulières et Richard sourit.
« D'accord, mais quel genre d'émotion ?»
Les bandes suivantes furent plus lisibles.
Un humain appellerait cela de l'abattement.
Est-ce une réaction naturelle pour un octopode à court d'inhibiteur?
Archie ne répondit pas. Richard retourna vers la table et se prépara des céréales. Il revint s'asseoir à côté de son ami, à même le sol.
Vous devriez m'en parler.
Il eut le temps de manger plusieurs cuillerées avant de l'entendre déclarer.
Les juvéniles en cours de maturation sexuelle sont isolés dans un environnement approprié, en compagnie d'alternatifs qui ont déjà subi cette métamorphose. On les encourage à décrire ce qu'ils ressentent et on leur affirme que ce tout est absolument normal. Je comprends désormais pourquoi ils ont besoin de tant d'attention.
Richard sourit afin d'indiquer qu'il compatissait.
Depuis quelques jours, je n'ai plus aucune prise sur mes sentiments,
ajouta Archie.
Dans le cadre de ma formation d'optimiseur, j'ai appris qu'il était indispensable de faire abstraction de toutes les idées préconçues dues à des réactions émotionnelles avant de prendre la moindre décision. Mais en raison de l'intensité de ce que j'éprouve, il m'est désormais impossible de les reléguer au second plan.
Richard rit. N'allez surtout pas croire que je me moque de vous. Mais vous venez de décrire ce que la plupart des humains ressentent à longueur de temps. Nous sommes peu nombreux à pouvoir exercer un contrôle sur nos réactions émotionnelles, et c'est peut-être la première fois que vous avez la possibilité de véritablement nous comprendre.
C'est affreux. Je suis à la fois triste parce que le docteur Bleu et Jamie me manquent, et en colère parce que Nakamura nous retient prisonniers. Je crains que cela ne m'incite à commettre des actes contraires au principe de l'optimisation.
Ces émotions ne sont pas liées à la sexualité chez les humains. L'inhibiteur n'aurait-il pas également un effet sédatif?
Archie termina son petit déjeuner avant de répondre.
Il est hasardeux d'établir des parallèles entre des espèces différentes. Je me souviens des réunions d'information organisées après votre sortie de l'habitat que les Raméens vous avaient réservées. Le maître optimiseur nous a recommandé de ne pas vous juger en fonction de nos critères. Nous devions vous observer, collecter des données et procéder à leur corrélation sans nous laisser influencer par notre expérience. Ce que j'ai pu constater en étudiant le comportement des membres de votre espèce m'incite toutefois à penser que le désir sexuel est le moteur de toutes vos émotions. Nous subissons une transition brutale alors que pour vous, le processus est lent et en conséquence plus subtil. Vos hormones sexuelles s'éveillent dès le début de votre développement fœtal. Il se peut que vos réactions incontrôlables leur soient dues. Un humain asexué devrait avoir un comportement semblable à celui d'un de mes semblables.
C'est une idée intéressante.
Le fait qu'un enfant refuse de prêter un jouet serait selon vous lié à sa sexualité?
L'amour qu'un petit garçon porte à sa mère et une petite fille à son père est de toute évidence une manifestation précoce de l'attirance qu'exerceront plus tard sur eux les personnes du sexe opposé.
Quelque chose me vient à l'esprit. Dans le cadre d'une de nos conversations, vous avez qualifié le concept de Dieu d'aberration nécessaire aux espèces en voie de développement pour passer de la première phase de conscience au stade de la recherche de l'information. Ce que vous ressentez actuellement modifie-t-il votre point de vue ?
Une explosion multicolore que Richard assimila à un rire se répandit sur toute la partie supérieure du corps de l'octopode.
Cette idée obsède tous les humains, vous inclus. Vous affirmez que vous ne croyez pas à ces sornettes, mais vous consacrez beaucoup de temps à y penser ou à en parler. Les précurseurs nous ont appris à accorder plus d'importance aux faits qu'aux simples conjectures.
Vous n'avez pas saisi le sens de ma question.
Je voudrais savoir si vous comprenez désormais pourquoi certains individus s'inventent un être suprême capable de leur apporter un peu de réconfort et de leur permettre de justifier ce qui est incompréhensible.
Un autre rire multicolore. Je devine vos intentions. Vous voulez me voir déclarer qu'il existe un lien entre la religion et le sexe. Mais je n'irai pas jusque-là car je manque de données. Je puis seulement dire en raison de ce que je ressens depuis quelques jours que je comprends désormais le sens du mot « désir » alors qu'il était jusqu'à présent sans signification pour moi.
Richard sourit, heureux de constater que le dialogue avait été rétabli.
J'aimerais tant pouvoir en parler avec nos amis restés dans la cité d'Émeraude.
Archie saisit le fond de sa pensée. Il avait veillé à ne jamais faire allusion aux quadroïdes pour ne pas risquer de révéler à leur garde, et par voie de conséquence à Nakamura, que les octopodes avaient de tels espions à leur disposition.
À présent, des bandes de couleurs s'écoulaient sur le pourtour de la tête d'Archie. Il n'utilisait plus le langage mis au point pour communiquer avec les humains, mais Richard comprenait l'essentiel de son message.
Après avoir salué le maître optimiseur et s'être déclaré navré de l'échec de leur mission, Archie envoya deux communications personnelles à Jamie et au docteur Bleu.
Pendant qu'il s'adressait à sa compagne, des explosions multicolores rompirent le rythme de ses propos.
Richard était fasciné et ému par la magnificence de ces manifestations d'émotion que plus rien n'inhibait.
Quand Archie eut terminé, Richard lui demanda
« Vous sentez-vous mieux à présent ?»«
En un sens, oui, mais je suis encore plus déprimé. Je crains de ne jamais revoir le docteur Bleu et Jamie.
J'imagine parfois ce que je dirais à Nicole si je pouvais lui parler »,
déclara Richard en prenant soin d'articuler chaque mot.
« Tu me manques et je t'aime de tout mon cœur. »
Richard avait le sommeil léger et il s'éveilla sitôt qu'il entendit les bruits de pas feutrés.
Archie dormait.
Richard regarda autour de lui et remarqua que la veilleuse des toilettes était éteinte.
Inquiet, il secoua son compagnon.
« Que se passe-t-il ? »
« J'ai entendu marcher en haut de l'escalier. »
On ouvrait la porte du sous-sol.
Il y eut un pas, puis un autre, en haut des marches.
Il scruta la pénombre.
« Il s'agit d'une femme et d'un policier, »
dit Archie, qui les voyait dans les infrarouges.
« Ils se sont arrêtés sur la troisième marche. »
« On vient nous éliminer, »
pensa Richard en se rapprochant de son ami.
Où sont-ils à présent ?
En bas de l'escalier. Ils approchent. Je crois que la femme est...
Papa !
Fit une voix issue du passé.
Où es-tu, papa ?
Bon Dieu !
C'est Cathy !
Ici !
Répondit-il d'une voix trop forte.
Le faisceau d'une lampe balaya le mur et s'immobilisa sur son visage barbu.
Quelques secondes plus tard, Cathy trébuchait sur Archie et tombait littéralement dans les bras de son père.
Elle l'embrassa et l'étreignit en pleurant.
La surprise de Richard était si grande qu'il ne put répondre immédiatement à ses questions.
« Oui, oui, je vais bien, »
dit-il finalement.
« Je n'arrive pas à le croire.
Cathy,
oh Cathy !»«
Oui, la masse grise sur laquelle tu as trébuché est Archie. »
Peu après, il serrait la main d'un homme qu'elle présenta comme son ami.
Nous ne pouvons pas nous attarder,
dit-elle après avoir demandé des nouvelles de leur famille.
Nous avons court-circuité l'alimentation électrique de la résidence et ils ne tarderont pas à trouver l'origine de la panne.
Vas-tu nous faire évader ?
Non. Ils vous retrouveraient et vous tueraient. Je voulais simplement te voir.
Oh papa, tu m'as tant manqué.
Il la prit dans ses bras.
Elle pleurait.
Je t'aime, Cathy.
Éclaire ton visage, que je puisse voir tes yeux.
Non. Je suis trop vieille et usée. Je veux que tu te souviennes de moi tel que j'étais autrefois.
Je doute qu'il vous garde ici encore longtemps, monsieur Wakefield,
dit l'homme.
La plupart des colons ont entendu parler de votre arrivée au camp militaire.
Est-ce que la nourriture est convenable, papa?
Ça peut aller.
Mais tu ne m'as pas parlé de toi. Que fais-tu? Es-tu heureuse?
J'ai bénéficié d'une promotion. Mon appartement est magnifique et j'ai un ami qui veille sur moi.
Tu ne peux pas imaginer combien ça me fait plaisir,
dit Richard, pendant que Franz se rappelait à Cathy qu'il devait partir.
Tu méritais de connaître le bonheur.
Elle se mit brusquement à sangloter et enfouit sa tête contre la poitrine de son père.
Papa, papa, serre-moi fort.
Qu'y a-t-il, ma chérie?
Je ne veux pas te mentir. Je travaille pour Nakamura. Je m'occupe des prostituées et je suis une toxicomane.
Elle pleura longtemps. Richard la tenait contre lui et lui tapotait le dos.
« Mais je t'aime, papa !»
dit-elle lorsqu'elle releva finalement la tête.
« Et je regrette de t'avoir déçu. »«
Il faut filer !» déclara Franz. « Si l'électricité revient, nous serons dans de sales draps. »
Elle embrassa une dernière fois son père.
« Prends bien soin de toi et garde espoir. »
Le faisceau lumineux s'éloigna vers l'escalier.
« Au revoir, papa.
Je t'aime très fort, moi aussi, »
dit Richard en entendant sa fille gravir les premières marches.